Vanessa, Sophie, Clara, Estelle, Isabelle, Stéphanie et tant d'autres femmes. Elles ont décidé de créer leur activité professionnelle. Fini le salariat, le cœur avant la raison. Il était temps pour elles d'exploiter leurs talents, de se mettre à l'ouvrage, de tracer leur propre voie. Un pari fou et risqué pour beaucoup. L'occasion pour elles d'exprimer leur potentiel et de respecter leur rythme. Autrement, l'émission qui recueille les témoignages de ces femmes hors normes. Bienvenue sur Studio Zef où aujourd'hui je reçois Émilie qui fait de la couture du zéro déchet pour toute la famille. Bonjour.
Bonjour Sophie.
Tu as créé ton entreprise il y a environ 6 ans ?
Oui, 6 ans, bien, très bientôt.
C'est-à-dire, quelle est la date anniversaire à peu près ?
Alors, il me semble que c'est le 19 février que mon entreprise a été officiellement ouverte.
Ça faisait un bout de temps déjà que tu proposais tes services autour de la couture et du zéro déchet ?
Ça faisait un an que j'avais commencé à en faire et j'ai tout de suite commencé à publier sur les réseaux sociaux pour voir si ça intéressait, pour partager ma passion. Et j'ai tout de suite eu des demandes que je refusais parce qu'il faut être déclaré et je voulais absolument vendre quelque chose de très bien.
Perfectionniste, hein ?
Très, très.
C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, quand tu mets un produit en vente, tu l'as vraiment regardé, comme on dit, sous toutes les coutures ?
Oui. Ouais. Et je le fais tester. Je le teste et je le fais tester par des copines. Donc il y en a qui sont contentes.
Ça veut dire que tes testeuses préférées ont toujours leur petit lot de cadeaux zéro déchet.
Oh, je change. Je change souvent.
Qu'est-ce que tu proposes comme produit ?
Alors ça va de la lingette lavable à utiliser quotidiennement, jusque les essuie-tout lavables, les éponges lavables, jusque pour les enfants, les bavoirs, les couvertures, les capes de bain. C'est surtout des produits éco-responsables et qui permettent de faire des économies sur du long terme et qui sont réutilisables et lavables.
Comment tu te fournis en matières premières ?
Alors, les matières premières, j'ai trouvé un revendeur sur internet d'un très gros grossiste de France qui fait des prix pour professionnels parce que pour moi, il faut aussi que mon prix de revente soit accessible à presque tous, même si malheureusement l'artisanat, ça ne l'est pas. Même si ça devrait l'être, mais non. Et aussi auprès de la mercerie, auprès de professionnels, pour avoir de la qualité.
Comment tu es installée pour travailler ?
Alors on va dire que j'ai une très grande chambre, que j'ai séparée en deux parties, donc partie nuit et partie atelier. Donc ça me fait à peu près 10 mètres carrés quand même. J'ai deux machines, donc j'ai une très grosse brodeuse, j'ai une machine à coudre, j'ai un espace découpe et un espace où il faut tout ranger. Parce que je fais beaucoup de stocks pour les marchés d'été et d'hiver.
Tu as des périodes de production et des périodes de vente.
Oui, je suis très organisée. Enfin, j'essaye. Donc, je sais les mois où je ne vais pas avoir de marché, où il fait froid, où il n'y en a pas beaucoup, où ça ne marche pas. Donc, pendant cette période-là, je fais à fond du stock pour que l'été soit un peu plus tranquille, même si j'ai souvent des commandes personnalisées en plus. Donc, justement, il faut que je garde du temps pour ces commandes-là. Et pour ne pas les perdre.
Donc, tu as deux secteurs. Tu as le secteur où tu fais une production, on va dire, généraliste. Et l'autre secteur où tu es vraiment dans une réponse à la demande.
Oui, c'est ça.
Cette demande, comment les gens viennent vers toi ? Est-ce que c'est le bouche-à-oreille ? Est-ce que c'est les réseaux ? Comment ça se passe ?
Alors, j'ai commencé tout au début par les réseaux sociaux, où ça marchait très bien. Et on va dire que l'après-Covid a été très compliqué. Donc maintenant, on va dire que c'est les deux.
Alors que tu fais quelque chose finalement, licence. Ça s'est ressenti dans ton activité d'artisane, l'après-2020 ?
Oui, bien sûr, parce que tout le monde a commencé à faire des masques et tout le monde a commencé à faire des lingettes.
Ah.
Ce qui est le plus simple. Mais ça a toujours été ma vente numéro une quand même.
Les lingettes.
Les lingettes, oui.
D'accord. Les capes, j'imagine que c'est plus des demandes personnalisées ?
Oui, mais pas que. Après, j'en fais très peu parce que ça a un coût, hein, c'est grand, ça a un coût. Mais mon commande, oui, pas mal personnalisée aussi.
Comment ça t'est venu, cette idée de vendre tes productions de couture ?
Depuis toute petite, je dessinais, j'avais envie de faire des choses de mes mains. J'ai toujours envie de créer, toujours, toujours, toujours. J'ai 1000 idées à la minute dans ma tête qui tournent.
Ça veut dire que tu ne crées pas uniquement en couture ? Tu dessines, tu fais d'autres choses en plus ?
Oui. Oui, je fais d'autres choses. Mon perso, j'aime bien la peinture à numéro, j'aime bien colorier, dessiner. Mais plus comme ce que je faisais avant. Avant, je dessinais vraiment des robes, etc. Mais c'était basique, on va dire.
Oui, c'est pas ton métier.
Non, pas du tout.
Mais c'est un plaisir à côté, ce besoin de créer.
Oui.
Les produits que tu présentes à la vente, que tu accoutes, c'est des choses que tu as dessinées au préalable ?
Non. Ce que je présente, c'est des objets du quotidien et qu'on me demande ou que j'utilise très souvent. Et puis, je m'inspire auprès de couturières anglaises.
Ah oui ?
Oui.
Pourquoi anglaise ?
Les nouvelles tendances arrivent plus loin que la France. Que j'essaye d'être, pas en avance, mais toujours tenue au courant de ce qui se passe, des nouveautés, des futurs besoins aussi.
Comment tu te tiens au courant du...
Sur les réseaux. Je passe énormément de temps, beaucoup trop même.
Tu as appris à coudre comment ? Quand ?
Un an avant de créer mon entreprise, j'avais payé des cours, mais ça s'est pas très bien passé avec la personne. Enfin, il n'y avait pas de feeling, donc au bout de 2 séances, j'ai arrêté, même si j'en avais payé 10, mais c'est pas grave. Mmh. Et après, avec YouTube, il y a énormément de tutos gratuits pour se lancer.
Donc tu as appris par toi-même le métier de couturière ?
Oui.
Tu viens d'une famille où on crée beaucoup, où il y a des gens qui cousent, qui tricotent ?
Ma mamie tricotait, mais non. Non, j'avais personne.
Il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas de...
Non, pas du tout.
Est-ce que ça a inspiré d'autres personnes autour de toi ?
Non, je pense pas. Non.
Donc les gens sont plus à venir vers toi pour te demander de faire les choses dont ils auraient besoin ?
Oui.
Mais pas te dire, ah c'est bien, je vais faire comme toi.
Oui, c'est ça. Je refuse pas mal de demandes parce que... Le problème, c'est qu'en couture, beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'est la différence entre la création et les retouches. Et moi, je ne fais pas du tout cette partie-là, ça ne m'intéresse pas. Donc, je renvoie vers des personnes qui font mieux que moi.
C'est ton métier principal ?
Depuis 2 ans, oui.
Qu'est-ce que tu faisais avant ?
Alors, tout au début, j'étais vendeuse en reprographie. Donc, souvent, on était seul en magasin. J'ai un magasin de à peu près 500 personnes, des fois, par jour. Mm-hmm. Donc, je vendais de la papeterie, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Et après, j'étais assistante de direction, parce que j'ai fait une formation entre deux. Et pour moi, gérer une entreprise, gérer des stocks, c'est un bonheur pour moi.
Ah bon ?
J'adore ça.
Le côté gestionnaire doit beaucoup t'aider en tant qu'entrepreneuse.
Oui. Oui, oui. Alors que je vois beaucoup de personnes qui ont du mal avec ça. Mais moi, c'est ma passion. J'adore.
Donc, en tant qu'entrepreneuse, tu peux prendre toutes les casquettes ?
Oui.
Oui ?
Oui. Et j'ai encore beaucoup de projets qui devraient arriver peut-être bientôt, peut-être un peu plus à long terme. On va voir.
Quand tu décides de te mettre définitivement, il y a 2 ans, complètement à ton compte, où tu laisses le reste derrière toi, qu'est-ce qui fait que tu te dis « allez, c'est le moment ».
On va dire que j'ai pas trop eu le choix. J'ai eu fait un burn-out, puis une maladie s'est installée chez moi. Donc j'ai pas eu le choix de ralentir et de prendre du temps pour moi.
Donc ça a été l'élément déclencheur.
Oui.
Et donc, comment gères-tu à l'heure actuelle justement ta santé mentale ? Parce que être auto-entrepreneur, ça peut aussi conduire au burn-out, on le sait toutes. Comment tu fais pour prendre soin de toi ?
J'ai appris il y a très longtemps qu'il faut, dans son agenda, se consacrer des heures sans rien. Tout est programmé dans ma semaine. J'ai les heures où je travaille, les heures où je mange, les heures où je me repose. C'est primordial. On ne peut pas faire sans. Il faut prendre soin de soi. Personne ne va le faire pour nous, il faut le faire.
Qu'est-ce que tu fais toi pour prendre soin de toi ? Quel est le truc qui vraiment va faire que ouf, tu vas pouvoir lâcher ?
Je médite un petit peu, je fais de la respiration, je lis, je me repose.
C'est essentiel, hein ?
Oui.
On ne lit pas assez. Est-ce que du fait que tu t'es fait un agenda, tu as une journée type ou pas ?
Un petit peu. Ça dépend après de mes différents rendez-vous médicaux ou à l'extérieur, en fonction de ma fille, parce que je suis toute seule à l'élever depuis très longtemps. Je sais que le mercredi, le week-end, c'est très calme, mais du coup, je travaille plus les autres jours.
Tu arrives vraiment, quand tu ne travailles pas, à couper de ton activité professionnelle ? Ou elle est toujours en train de tourner dans ta tête ?
Elle est toujours là, parce qu'en fait, on travaille sans vraiment travailler, parce que du coup, bah, je fais de la pub sur les réseaux, je participe, parce que sur un réseau social, il faut aussi participer, il ne faut pas juste publier. J'essaye d'y passer moins de temps, mais j'y passe énormément de temps. Et je fais de la pub quotidiennement.
Tu es sur quels réseaux sociaux ?
Facebook, Instagram et depuis un an sur TikTok. J'avais fait quelques lives, là je suis en train de reprendre d'ailleurs. Et c'est très dangereux TikTok. Nombreuses choses, mais ça peut être aussi très bien quand on veut se lancer, quand on y tient, quand on y est tous les jours. Enfin, on est très vite oublié par contre. Hein. Surtout les réseaux. Si on publie pas, on est très très vite oublié. On est énormément sur les réseaux sociaux, plus qu'il y a 6 ans quand j'ai commencé. Donc très très dur maintenant.
Ces trois réseaux différents, est-ce que ces trois façons de communiquer différentes pour toi ?
Non, pas du tout.
Tu publies les mêmes choses sur les trois réseaux ?
Non, sur TikTok, il faut publier beaucoup de vidéos par jour. Oui. Où il faudrait au moins 3 par jour, ce que je ne tiens pas du tout. Parce que ça, c'est encore un monde à part, création de contenu. Sur Instagram, il faut des vidéos, mais pas tous les jours. 2-3 par semaine, donc ça, j'essaye d'y tenir. Et puis Facebook, je pense qu'il est un peu délaissé, malheureusement. Je ne peux pas tenir les 3 en même temps, c'est très compliqué.
Oui, c'est pas logique. Quand tu t'adresses à tes clients potentiels sur les réseaux, tu as en tête un client particulier ?
Non, quand je regarde les statistiques, ça varie de 25 à 45, 55 ans. Par contre, c'est souvent des femmes. On dit toujours que les femmes achètent plus. Non, elles viennent d'horizons différents.
Les produits que tu fais, ils ont évolué en 6 ans ? Il y a des choses que tu ne faisais pas, que tu fais maintenant des...
Oui, oui, oui. Il y a des produits que je faisais il y a encore un an que maintenant je ne ferai plus. De toute façon, un commerce et de la création, c'est changeant tout le temps. Hein. Il faut toujours se renouveler pour attirer du monde, pour grandir, pour s'épanouir aussi. On essaye, de toute façon, il faut toujours essayer. J'essaye de lancer des choses, si ça marche, ça ne marche pas. Ou après, je fais sur commande et puis j'en fais un ou deux dans l'année, mais... Ça change.
Quel est le produit qui a vraiment perdu tout intérêt pour tes clients à l'heure actuelle, sachant que ça peut peut-être revenir ?
Très bonne question. Parce que des fois, on me demande quel produit que je vends le plus, mais je ne sais pas à quoi répondre. Parce que des fois, on me demande des produits, donc je les sors, et puis une fois que je les ai sortis, on ne me les demande plus. Là, par exemple, je vais arrêter la serviette de table. Ça fonctionne moins, alors qu'on m'en demandait pas mal. Les porte-monnaie... Les porte-chéquiers, les porte-cartes, c'est vraiment des produits que je vends le moins. C'est surtout que plus je fais de produits, plus il faut du stock de chaque produit. Et plus j'ai de tissus, plus il faut gérer le stock de tout ça. Donc j'essaie de réduire au maximum, même en proposant quand même des produits qui vont plaire. C'est surtout ça. Surtout quand on fait des marchés, il faut pouvoir vendre au maximum de personnes. Donc il faut que ça intéresse le maximum de personnes. Je ne peux pas m'arrêter sur quelques produits spécifiques. Quand on m'avait demandé un protège-sel de vélo ou des gants pour réchauffer les mains, mais ça je peux pas. Il faut que ça intéresse le maximum de personnes.
Tu parles de faire les marchés ?
Oui.
Tu fais des marchés réguliers ou c'est au coup par coup ? Comment ça se passe ce choix des marchés ?
On va dire que c'est plutôt saisonnier. Chaque créateur essaye des certains marchés. Il y en a qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Après, ça dépend de quand ça tombe, de ce qu'on propose. Pour moi, les marchés brocantes, ça ne fonctionne pas. Les personnes viennent pour brader et pas pour acheter de l'artisanat.
Donc, tu es plus sur des marchés qui arrivent une fois de temps en temps et qui sont vraiment destinés à l'artisanat local ?
Ah oui. Alors, destinés à l'artisanat local, ça, c'est obligatoire. Après, il y a les marchés de Blois. Qui sont généralement tous les jeudis soirs, donc de juin à août, où je suis depuis 2 ans. J'y retournerai encore cette année si on me reprend, mais il n'y a pas de raison.
Tu fais un grand sourire en parlant de ce marché. C'est un moment privilégié pour toi d'être à vendre tes produits en tant qu'artisan ?
Oui, parce que c'est une autre ambiance, c'est nocturne, donc c'est de 17h à 23h, c'est vraiment une autre ambiance. Puis on s'entend très bien avec certains artisans, c'est, ouais,
oui, y a une
c'est autre chose.
De proximité, oui. Entre artisans, un vrai échange d'expériences professionnelles et autres. Hein.
Oui, c'est ça. Et puis souvent, il y a des concerts en ville l'été. Donc, il y a du monde, il y a des touristes. Donc, ça fait vivre la ville. C'est génial.
Ça, c'est vraiment un marché que tu as préparé bien en amont, finalement. Tu passes ton hiver et ton printemps à préparer cette période-là, j'imagine.
Alors, pas l'hiver, parce que l'hiver, il y a les marchés de Noël.
Ah. Oui.
Et marché de Noël, ça fonctionne très bien quand on choisit les bons marchés.
Tu fais beaucoup de marchés en période pré-Noël. Tu commences quand ? Ça dure combien de temps ces marchés de Noël ?
Du coup, une fois terminé les marchés d'été au mois d'août, je commence dès septembre, même créé, même s'il y a encore quelques marchés en septembre, mais ça marche moins bien après les vacances. Du coup, je crée pendant 2 mois, sachant qu'il me reste encore du stock de début d'année. Après, les marchés Noël, ils commencent en novembre. Hein. Après, j'en fais très peu parce que je sélectionne vraiment ceux qui me plaisent et qui fonctionnent. Ceux où je vais, j'ai la moitié... mon stand qui part, quoi. Ça dépend où on va.
Ces marchés-là, donc tu vas les retrouver d'une année sur l'autre. Hein. Est-ce que entre artisans, vous vous filez un peu les bons tuyaux, tel marché, il faut y aller
Oui, bien sûr. C'est surtout un marché, c'est la convivialité. Il faut être avec des personnes qu'on apprécie. Donc oui, on veut être toujours ensemble au même endroit. Donc oui, on se donne les bons tuyaux, on échange et puis on se fait des restos de temps en temps avec certaines personnes. Ça continue toute l'année.
Le lien est fort pour vous soutenir entre vous. Toi, tu as ton expérience professionnelle qui fait que tu es un peu capable d'être à la fois aux commandes de toutes les principales fonctions d'une entreprise, mais est-ce que pour autant tu continues à te former par exemple alors sur la communication, sur certaines décisions on va dire financières, est-ce que tu te fais aider, comment ça fonctionne pour toi?
Je suis quelqu'un de très curieuse, donc on apprend toujours. J'ai fait une formation il y a 1 ou 2 ans pour Instagram, donc j'ai appris certaines choses, mais après il faut du temps pour les mettre en place, il faut du temps que je ne prends pas, clairement. Après, financièrement, j'ai jamais fait de crédit pour mon entreprise. J'essaye de vivre avec le moins possible, tout en achetant pas tout ce que je veux, parce que les envies sont grandes, mais j'essaye de trouver un bon équilibre.
Alors, comme tu es dans la production matérielle, et puis donc dépendante du système de l'auto-entrepreneuriat, c'est bien ça?
Oui.
Tu es soumise quand même à des données financières qui sont en train d'augmenter à l'heure actuelle, entre l'URSSAF qui a augmenté, le prix de l'électricité, parce que tes machines, elles ne fonctionnent pas à la pédale, j'imagine.
Oui.
Comment tu arrives à absorber ces coûts supplémentaires?
On va dire que je les vois pas vraiment. Mon entreprise grandit petit à petit, le bouche à oreille, avec les bons partenariats de ma ville et un peu plus alentour. Donc pas assez... je le vois au côté personnel, oui. Mais côté professionnel, je ne les vois pas.
C'est absorbé par la croissance de ton entreprise, en
fait. Oui.
Tu parles de partenariat. Explique-nous.
Et j'ai une copine qui est déjà venue ici, Sophie Dang. Mm-hmm. Donc Marie-Jo, elle propose déjà mes produits, elle, dans sa boutique. Donc, et puis, on avait déjà fait un cours de couture pour les enfants, mais je me sentais pas à l'aise, donc je l'ai pas renouvelé. De temps en temps, elle fait des portes ouvertes, donc elle m'invite pour proposer mes produits avec une plus grande large gamme. Ça se passe très bien. Et puis, j'ai aussi un partenariat qui, là, se calme un peu, mais qui a très bien fonctionné pendant 6 mois. Sur Paris, quelqu'un qui vend des produits cosmétiques et qui vendait sur TikTok avec une clientèle, une énorme clientèle sur toute la France. Je créais pour elle des trousses de toilettes avec son nom de marque. Ça m'a permis de grandir mon entreprise encore plus en 6 mois. Quoi. Ça a été énorme. Je faisais 30 trousses en une semaine. Pour mes 2 petites mains, c'est beaucoup. Ouais. Pas toutes les semaines, mais une fois tous les mois, voire tous les 2 mois. Et pour Noël, c'était très bien. Enfin, c'était incroyable.
Ouais, donc tu étais bien occupée entre les marchés et la fabrication des trousses.
Très, très, très occupée, oui.
Comment tu as rencontré ce deuxième partenariat? Parce que bon, Paris, c'est pas Blois.
Oui. Eh bien, tu sors TikTok. Comme j'ai dit tout à l'heure, sur un réseau social, il faut y participer. Donc, je regardais des lives, j'achetais, parce que on est tout un peu influencés par certaines choses. Je participais à son live régulièrement, de plus en plus. Puis, on s'est liés, entre guillemets, d'amitié. Et ce que je faisais, ça lui plaisait. Et puis, un jour, elle m'a contacté si j'étais intéressée. Je lui ai dit, bien sûr que oui. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, qui me plaît. Et donc ça s'est fait au mois de juin l'année dernière, il me semble, en même temps que les marchés. Et parce qu'elle fêtait les 1 an de son entreprise. Et on a cartonné. Pour moi, à mon échelle, c'était énorme.
C'était énorme.
Mm.
Ce genre d'expérience, elle est quand même très originale. Mais de manière globale, comment tu fixes tes prix?
Mon côté... Instant de direction.
Oui.
J'ai un tableau Excel où tous mes prix sont calculés avec le prix d'achat, la largeur du tissu, et ça me calcule mon prix au mètre carré. Et puis après, chaque produit, il me faut tant de tissu. Donc ça, mon tableau, il me calcule tout jusqu'au prix réduit de l'URSSAF. Et du coup, je sais combien je gagne par chaque produit et à combien je dois le vendre.
D'accord. Et tu comptes ton temps de travail ? Tu arrives à valoriser ce temps de travail ?
J'essaye. Je sais que sur certaines pièces, je ne peux pas le mettre totalement, mon temps de travail, parce que sinon ce serait beaucoup trop cher. Je ne peux pas vendre quelque chose à 300 euros, enfin, c'est impossible. Mmh. Mais je sais que sur d'autres produits, je gagne plus, donc c'est un équilibre à trouver.
Et tu arrives aussi à inclure tes coûts fixes, ils ne sont pas du tout fixes. Hein, par exemple, justement, la part de l'électricité, la part, on dirait, presque du loyer, même si ce n'est pas vraiment la part de loyer, si tu fais ça chez toi. Mais...
Non, tout ça, ce n'est pas pris en compte. Tout ça, c'est vraiment en perso. Je suis très bien mes comptes en perso et je sais avec ce que je vais me gagner en professionnel, ce que je dois prendre en perso et ça fonctionne très bien comme ça.
Donc tu arrives à te tirer un salaire, une fois sorti de tes coûts, tu arrives à te tirer un salaire qui te permet de couvrir tes besoins de maman en fait.
Tout à fait, oui. Il faut, hein, sinon je pourrais pas vivre sans.
Tu sais combien d'heures par semaine tu travailles à la machine ?
Pas vraiment, mais on peut essayer. On va dire que là, en ce moment, je suis au moins... J'ai réduit un peu. Je travaille aussi des fois le dimanche, donc on va dire 3-4 jours par semaine. Donc de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Et comme tu disais tout à l'heure, t'as bien déposé l'heure où tu vas déjeuner.
Oui.
Tu te laisses pas avoir par ça.
Ah non. Puis de toute façon, mon ventre me le rappelle, je n'ai pas le choix. C'est variable, est-ce que j'ai des rendez-vous, parce que la vie est faite qu'on ne peut pas tout prévoir.
C'est sûr, il y a des moments où les imprévus viennent s'inviter.
C'est ça.
De quoi tu rêves par rapport à ton activité professionnelle ? Quel objectif là tu aurais, alors on va dire à court terme et puis à moyen terme ?
À court terme, ce serait de continuer ainsi et d'avoir de nouveaux partenariats.
Ce dont tu aurais vraiment, vraiment, vraiment envie. Le but vers quoi
à
tu
À très long terme, ce
oui,
serait...
Pas à très long terme peut-être. Peut-être que ce sera dans 3 mois.
Sachant que j'ai beaucoup de créativité en moi, on va dire d'ouvrir une boutique et proposer mes produits et d'autres produits que j'aimerais faire. Je pourrais pas parler aujourd'hui, que ça reste secret. J'ai envie de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
La boutique avec tes productions en tant qu'artisane, mais aussi peut-être justement des partenariats encore.
Oui, des partenariats avec ma chère Sophie. Et on s'est boosté hein, il y a 2 ans à se lancer dans les marchés, à aller taper aux entreprises pour faire des CE. On se booste toutes les deux. Et puis, de temps en temps, on se retrouve à boire un café ou aller manger au restaurant, parler pour se remotiver ensemble.
D'ailleurs, avec Sophie, vous avez monté cette année le salon à la Chaussée Saint-Victor Yes Weekend.
Oui, tout à fait.
Ça aussi, c'est un gros travail.
Oui, c'était un très très gros travail. C'est très fatigant, on va dire. Et surtout que j'étais très occupée avec mes trousses. Mais ça s'est fait. On était très 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 contentes. Là, d'ailleurs, on doit se revoir toutes les trois avec Céline Faye qui nous a accompagnées sur ce projet-là l'année dernière.
Et tu appartiens à des réseaux d'entrepreneurs du Loir-et-Cher ?
Non, toutes les réunions sont toujours le soir, et moi le soir je ne suis pas disponible. Pour le moment, non, je reste dans mon coin, et je verrai peut-être plus tard. Pour le moment, ça ne m'intéresse pas, je ne pourrais pas m'organiser pour en tout cas.
Oui, de toute façon, ça ne t'empêche pas de monter des projets de partenariat et d'avoir des gens sur qui déjà tu peux t'appuyer.
Oui, bien sûr. Sachant que les partenariats, on peut en avoir dans toute la France, voire plus. Donc moi j'essaye de m'ouvrir pas qu'au département.
Ça peut t'emmener à bouger ?
Actuellement, je pense pas à bouger, mais ça pourrait, oui. Ça me gênerait pas.
Merci, Émilie, d'avoir répondu à mes questions.
Ben, merci à toi de m'avoir accueillie, si chaleureusement.
Et puis, au plaisir de te retrouver sur un marché, ici ou là.
Avec grand plaisir.
Donc, prochain marché, ça commence au mois de juin.
Normalement. Voire avant, on ne sait pas.
À bientôt.
À bientôt, merci.
Vanessa, Sophie, Clara, Estelle, Isabelle, Stéphanie et tant d'autres femmes. Elles ont décidé de créer leur activité professionnelle. Fini le salariat, le cœur avant la raison. Il était temps pour elles d'exploiter leurs talents, de se mettre à l'ouvrage, de tracer leur propre voie. Un pari fou et risqué pour beaucoup. L'occasion pour elles d'exprimer leur potentiel et de respecter leur rythme. Autrement, l'émission qui recueille les témoignages de ces femmes hors normes.